Philippe Vandel est de retour avec sa série des Pourquoi pour répondre à toutes vos questions sur les Jeux Olympiques.
Il y en a tellement. Pourquoi un joueur de foot ne peut pas retirer son maillot pour célébrer un but? Pourquoi l'équitation est-elle la seule épreuve mixte des Jeux Olympiques? Et d'ailleurs, pourquoi certains sports sont-ils olympiques et pas d'autres? Des questions évidentes, mais des réponses étonnantes. Plongez avec moi dans l'univers fascinant des Jeux Olympiques et du sport.
Les Pourquoi des Jeux Olympiques, un livre surprenant de Philippe Vandel, aux éditions Kero.
Vous écoutez
RMC. RMC. After Foot. Intégrale Coupe du Monde. Intégrale Coupe du Monde.
Nicolas Jamin.
L'after intégrale Coupe du Monde sur RMC, 23h03 à Paris, 1h03 du matin ici en direct du studio à Doha, le studio d'RMC, la radio officielle de la Coupe du Monde avec Flo Gautreau, Kevin Diaz. Messieurs, tiens, information qui vient de parvenir, que Polo vient de nous envoyer. Retraite internationale pour Thomas Müller. Les gars, voilà, 33 ans, tient sa révérence.
Voilà quelqu'un de raisonnable.
Au revoir.
Auf Wiedersehen.
Mais attention, restons prudents avec ces dernières tournées, les gars.
C'est raisonnable, ouais, parce que Michel Sardou recommence. Hein, donc,
Aznavour en a fait trois aussi dernière. Eddie Mitchell aussi.
C'est vrai.
Thomas Müller, donc, à 33 ans, se retire.
33 d'ailleurs, et je voyais plus. Tu vois, j'aurais donné 2 ans de plus.
Non, il est de 89, tu vois, Thomas Müller. Ça fait tellement longtemps. Au revoir, Thomas. Tu le tiens bien, Kevin, d'ailleurs.
Au revoir.
L'équipe de France dans un instant, les gars. Mais tiens, je veux quand même prendre 2 minutes pour vous donner votre sentiment sur ce mondial en termes de spectacle, d'intensité. Pas forcément de niveau, mais là, j'ai plein de messages d'auditeurs de l'After qui me disent, mais quelle soirée on vit sur RMC et dans ce mondial également. Hier, c'était magnifique également le dénouement du groupe de la Pologne, Argentine, Arabie Saoudite, Mexique. Comment vous jugez le niveau de spectacularité, comme certains le disaient à l'époque?
Moi, franchement, je suis plutôt agréablement surpris, mais je suis plutôt satisfait par ce mondial pour l'instant. On savait que de toute façon les joueurs allaient être prêts, allaient être vraiment en bonne condition puisqu'ils sont en pleine saison. Alors malheureusement, il y a eu bien sûr certaines blessures de joueurs importants, Sadio Mané, etc. Mais le Sénégal a quand même réussi à se qualifier, donc on va dire que ça va. Mais voilà, après c'est toujours pareil. Bon, moi c'est ma façon de voir le foot, c'est ma vision des choses. C'est-à-dire que moi je suis capable d'être pour ou d'apprécier une équipe comme le Japon quand je vois la ferveur de leurs supporters, et moi qui n'ai jamais été un grand supporter de l'Argentine, mais quand je vois ce que ça représente pour ce pays qui a des conditions compliquées en économique avec l'inflation monstrueuse, etc., et que je me dis que voilà, une victoire, une qualification, ça va donner encore une fois, le football c'est bien plus qu'un sport, et ça va donner de la joie de vivre à toute une population. Quand je vois leurs supporters dans la tribune, toi tu m'as envoyé quelques vidéos, Nico, après le match ou pendant le match contre le Mexique. Mais moi j'aime ça. Moi j'aime ça. C'est le football qu'on aime. Je vois les Portugais qui sont satisfaits. Ils n'ont pas été flamboyants, mais ils sont qualifiés.
Non, voilà, les Français. C'était émotionnel dans les tribunes. Les joueurs qui chialent comme Lewandowski, comme Ronaldo, les supporters qui pleurent comme ce soir, les supporters japonais. Toi, Flo, ton regard sur ce début de mondial?
Non, c'est plutôt un très bon regard, parce que tu prends globalement du plaisir. Je ne vais pas faire le rabat-joie. Mais après, je reviens sur ce que tu disais, toi, sur le niveau. C'est peut-être pas une grande Coupe du Monde. Tu vois, je prends l'exemple de ce groupe E qu'on a vu ce soir. On l'analyse dans tous les sens et on finit par dire que le Japon a joué par intermittence tout en étant premier. Que l'Espagne n'est pas, on vient d'en parler avec Fredo, très forte et qu'elle laisse un goût d'inachevé. Que l'Allemagne, on en a parlé longtemps, elle est éliminée. Le Costa Rica prend 11 buts en 2 matchs. Et je remarque aussi que dans les grandes nations de la vieille Europe aussi, tu vois, ça s'étiole. C'est-à-dire les Pays-Bas, on les attend toujours fort et puis on est déçus. L'Espagne, on vient d'en parler. L'Allemagne, on vient d'en parler. L'Argentine, on l'a été un peu aussi. Le Portugal, quand même, on reste un peu. Et finalement, sur les 2 premiers matchs, la France a vraiment tenu son rang, d'ailleurs, à ce niveau-là, même contre des équipes inférieures. Et le Brésil tient son rang, je trouve, y compris dans les poules. Mais voilà, si on veut résumer, je dirais que c'est spectaculaire, y compris dans les tribunes. C'est agréable, et notamment par des équipes très préparées à ce foot d'aujourd'hui. J'en reviens au nivellement évoqué par Kevin. Avec des équipes qui courent beaucoup, je pense au Japon et la Corée, ou même au Maroc avec ce jeu vertical, donc ouais. qui ont compris un peu ce qu'il fallait faire pour essayer de passer. Donc ça donne de la spectacularité. Mais si on veut être, on fera le bilan plus tard, hein, mais exigeant et peut-être plus exigeant sur le niveau vraiment réel technique, il faut regarder les grandes nations. Et les grandes nations, elles sont pas tout à fait toutes à la hauteur.
Même si, Flo, on a failli quand même retrouver toutes les grandes nations, au final, il manquera qui ? Il manquera que l'Allemagne.
Mais ça, c'est classique de ces histoires de poules, Kevin. Je dis la même chose en Ligue des Champions. Il y a toujours la petite surprise, mais en gros, ça sert à malaxer pas grand-chose. Et à 48, ce sera pareil. C'est-à-dire que là,
à 48, ce sera pire.
Oui, on fera des matchs, et puis après, à la fin, tu récupères un peu tout le monde. Donc, ça, c'est le business. Mais après, c'est pour ça qu'il faut regarder les matchs et le niveau. Sur les nations qui portent et qui ont souvent porté le foot et dans les palmarès, on reste un peu sur sa fin. Peut-être pas sur le Brésil, qui a été à la hauteur, pas servi par ses adversaires d'ailleurs parfois, mais qui a su être à la hauteur et qui a ajouté la spectacularité à la France.
Qui a clairement la meilleure équipe, même sans Neymar, et la meilleure sélection.
Le meilleur groupe, c'est ça, Nico.
Bon, 2026, pour être très clair, pour ceux qui seraient échappés, on aura effectivement 48 équipes, 16 groupes de 3 équipes, les deux premiers qui passeront en 16e de finale. Voilà, non, mais tu auras le même nombre de matchs en réalité.
Non, mais attention, Nico, c'est pas pareil. Parce que là, à chaque match nul, il y aura des pénalties en plus. Donc ce sera vraiment Disneyland.
Exactement, Disneyland. Du foot en 2026. Un autre. Disneyland aux États-Unis, au Mexique et au
sport,
Canada.
Avec la VAR, avec des matchs, on attendra d'être dans le vestiaire pour savoir définitivement le résultat.
Ou dans le bus, t'as raison.
Et du coup,
garez-vous sur le bas-côté, les gars, sortez du bus.
Du coup, ce sera pas Disneyland, mais Disney World.
Bon. Disney World, tout à fait. Alors l'équipe de France, les gars, la France qui jouera donc la Pologne dimanche à 16h. On a écouté Kingsley Coman tout à l'heure dans l'After Live intégrale Coupe du Monde, qui parlait de Robert Lewandowski, qui est le danger numéro 1. Parlons de notre équipe de France surtout. Flo, tu veux développer un avis intitulé ainsi: les Bleus sont trop limités pour aller au bout. Jingle Flo Gautreau.
Renaud Lavillenie va sauter Nico Jamin à Lausanne. C'est un vieux souvenir.
Ah, il est vieux. Vas-y, Flo.
Oui, c'est pas très original parce que j'ai essayé de maintenir péniblement le fil que j'avais tendu avant la Coupe du Monde parce que j'étais sceptique sur le niveau des Bleus. Donc, je vais essayer de pas changer d'avis et pas être une girouette. Même si en foot, faut être deux. Et après, faut voir qui est en face. Donc, c'est sûr que de se taper la Pologne en huitième, c'est pas un scénario incroyablement difficile pour la France. Donc, il y a toujours une possibilité de progresser. Et je pense que la France avait évidemment les qualités pour sortir du groupe. Ils ont les qualités pour passer les huitièmes, peut-être les quarts. C'est pour ça que je dis ne pas aller au bout, parce que les faiblesses qu'on a vues hier contre la Tunisie, c'est assez intéressant. Bien sûr, c'est une équipe B. C'est intéressant de voir ce que tu as derrière, ce que tu as dans le réservoir. Et on le savait, parce que même sur l'équipe type, on pensait être un peu limité au milieu de terrain. On l'est clairement au milieu de terrain, même avec nos titulaires. Et on l'est un peu partout avec nos remplaçants. Ça, c'est la réalité. Alors vous allez me dire, c'est pas grave, on est une équipe type. Oui, peut-être, mais on a quand même derrière cela tous les choix de Deschamps dans la structure de la liste qui ressortent et qui vont ressortir comme des problèmes. Et là, on est sur ces sujets qu'on a évoqués tout à l'heure, même pour l'équipe d'Allemagne, qui sont ceux de la défense. Qui joue en défense centrale? Est-ce que tu dois continuer même avec un Varane, ou est-ce que d'ores et déjà, je sais qu'on a ce débat-là, on doit changer et mettre Konaté? Est-ce que on peut se permettre de continuer en faisant jouer des joueurs qui ne sont pas latéraux au poste de latéral, etc., etc. On en revient à la structure de la liste, au fait que Jonathan Clauss n'est pas là, que Lucas Digne n'est pas là, que un 26e n'a pas été choisi à ce poste-là. Donc sur les Bleus, effectivement, je ne suis pas surpris des qualités qu'ils ont pu afficher contre des équipes inférieures, et je maintiens que leur groupe n'était pas un groupe très fort. Et je pense que pour aller au bout, il faudra être beaucoup plus fort que cela. Et à part la capacité du duo, on va dire, puisque moi, je reconnais que moi sur Griezmann, je suis très très surpris de son niveau et dans cette Coupe du Monde. À part sur ce duo-là, Griezmann-Mbappé, qui peut faire la diff, enfin, et notamment Mbappé, je pense que derrière, on a des faiblesses défensivement et au milieu. Je trouve que ça fait
tu
beaucoup.
Tu parles du duo Mbappé, attends, ouais. Je te coupe un des yeux dans ton avis. Mm-hmm. Tu parles du duo Mbappé-Griezmann, tu exclus Dembélé par exemple.
Non,
des différences.
Non, Dembélé peut faire des différences, mais on verra dans les matchs décisifs que ceux qui vont t'apporter vraiment avec l'expérience et avec cette capacité à vraiment faire la diff, ce sera Mbappé. Et je crois pas que ce sera forcément Dembélé dans un quart, une demi, puisque j'en suis allé parler de l'équipe qui va aller au au bout. Après, moi, c'est surtout au milieu et derrière. Je dis, est-ce que tu peux décemment penser que tu vas au bout avec une équipe de France dont tu ne sais pas exactement aujourd'hui quelle est la meilleure charnière, on en revient au débat qu'on a eu sur Allemagne tout à l'heure, dont tu ne sais pas quel latéraux tu vas mettre parce que tu n'as pas choisi des latéraux dans ta liste et dont tu n'es pas sûr du milieu de terrain qui est à mon avis la salle des machines et qui est quand même le nœud du problème de l'équipe de France. Donc c'est là, on part maintenant dans les matchs à élimination directe. L'intérêt, c'est de savoir en gros si tu es champion du monde en titre. Il y a des équipes, que je l'ai dit tout à l'heure, qui en plus sont pas forcément très fortes en ce moment sur les grandes nations habituelles du foot. Donc il y a aussi une occasion, à part le Brésil. On peut dire qu'il y a une occasion. On peut pas dire que la France a à rougir face à l'Argentine. On pourrait pas dire que la France aurait à rougir face aux Pays-Bas. Donc pourquoi pas? Et malgré tout, je pense que de manière intrinsèque, la structure de cette liste et les interrogations qui pèsent sur la défense et le milieu me laissent penser que ça sera compliqué d'aller au bout.
Kevin, tu réagis à l'avis de Flo dans un instant. D'abord, j'accueille Nicolas au 32-16, supporter de l'équipe de France. Salut Nicolas.
Oui, salut. Bonsoir tout le monde.
Bienvenue dans l'After, salut, en direct de Doha, Nicolas.
Merci à tous. Hein.
Bon, écoutez, tu es à quel niveau de confiance pour l'équipe de France pour aller au bout? Flo l'a dit, maintenant que tu es en 8e, tu penses à la victoire finale?
Ayant vu toutes les équipes jouer, je vois pas comment on pourrait ne pas la gagner. Maintenant, c'est tellement le football est tellement irrationnel que moi je nous vois favoris, je nous vois aller au bout, je vois personne nous inquiéter si tous nos joueurs sont au top, même peut-être sans latéraux comme vous le dites. Maintenant, ce qui m'inquiète moi, c'est le fait qu'on joue avec notre banc, en fait, parce que nos titulaires, nos 3-4 titulaires au milieu de terrain et en défense sont blessés. Donc du coup, on a été obligé de mettre le banc titulaire et qui fait une bonne performance en poule, c'est-à-dire Rabiot, Tchouaméni et Upamecano Konaté sur le premier match. Et c'était des joueurs qu'on ne voyait pas du tout titulaires il y a 6 mois en arrière, même voire il y a 1 an en arrière. Et même les latérales, Théo Hernandez, à la base, on pensait que c'était Lucas Hernandez qui allait commencer. Devant Dembélé, c'est une surprise qu'il soit titulaire parce qu'il n'a pratiquement pas joué en Nations League et sur les derniers matchs de l'équipe de France. Parce que c'était souvent Benzema, Mbappé et Griezmann. Parce qu'on a souvent joué avec ce trio-là. Aujourd'hui, Benzema n'est plus là. Griezmann peut enfin retrouver un poste un peu plus qui lui convient mieux.
Et on conforme à ses qualités, à son âge, tu as raison.
Ouais. Exactement. Et bon, pour moi, par exemple, le trio Mbappé, Benzema, Griezmann, je l'aurais bien vu avec un entraîneur un peu plus joueur comme Zidane. Je pense qu'il aurait réussi à les associer. Avec un entraîneur un peu plus craintif comme Deschamps, je pense pas qu'il se soit attardé sur ce trio-là. Donc, à un moment donné, c'est les plus forts, ceux qui ont, comment dire, qui ont une influence beaucoup plus forte sur le jeu, qui se sont imposés. Et c'est des mangeurs de buts comme Mbappé, comme Benzema, et c'est eux qui ont pris la lumière sur eux.
Benzema, il est pas là, mais je vois où tu veux en venir, hein, dire que Zidane aurait peut-être fait un peu mieux jouer cette équipe et aurait pu inclure.
Oui, je dis ça, mais je m'en fous en vrai. Je veux dire, je suis pas en train de regretter Zidane, mais au contraire, je suis très content de ce que Deschamps fait et ce qu'il fait avec cette équipe, c'est fabuleux. Et je pense que faut pas être trop critique ni trop ambitieux.
T'es ambitieux puisque tu dis que tu vois personne peut battre l'équipe de France.
Mais parce que ça, c'est la réalité. Sur ce que j'ai vu maintenant, on a fait 6 sur 6 avec le Brésil, les autres équipes, elles ont galéré.
En 2021, il y avait Benzema, il y avait Mbappé, il y avait Pogba, il y avait tous les joueurs quasiment qui étaient aptes à jouer. Est-ce que tu voyais l'équipe de France perdre contre la Suisse?
Mais exactement, c'est pour ça que je dis que le football il est irrationnel et qu'à un moment donné, on est obligé on peut pas deviner l'avenir, quoi. Donc
on devine pas l'avenir, Flo. Tout ce qu'il a dit, c'est que au vu des absents, comme toi tu as dit, au vu des seconds choix qu'on est obligé d'aligner, l'équipe de France, bien sûr qu'elle sera difficile à éliminer et qu'elle a toutes ses chances, mais de là à dire comme toi que tu ne vois personne, je pense qu'il y a quand même une équipe qui joue en jaune et qui a 5 étoiles sur le maillot. Je pense que celle-là, peut-être éliminer la France. Mais bon,
j'ai vu le Brésil jouer. J'ai pas trouvé le Brésil plus flamboyant que nous. Hein. franchement, ils ont.
Non, mais la différence, gagné. Pour rejoindre ce que dit Kevin, Nicolas, excuse-moi, je te coupe, c'est que le Brésil, quand il faut rentrer Anthony, Rodrigo, notamment à la 65e minute de jeu, qui, sans perdre de niveau ou sans dégrader l'apport offensif.
De toute façon, c'est simple. Concernant
on a
le Brésil.
Pas ça, nous.
Concernant le Brésil, tu verras l'équipe B du Brésil demain et tu vas voir que c'est une grosse différence avec l'équipe B
mais
de l'équipe de France.
C'est une grosse différence, ok, mais est-ce que c'est ce qui va faire qu'ils vont nous battre?
Je suis pas devin. Je peux pas te dire ce qui va faire qu'ils vont nous battre. Je sais même pas si on va les rencontrer dans le mondial. Tout ce que je te dis, c'est qu'à l'instant T, la meilleure équipe et celle qui, non seulement a la meilleure équipe et en plus a les meilleurs remplaçants, c'est le Brésil. C'est tout ce que je peux te dire. Moi, c'est mon avis.
C'est
après,
c'est,
si tu penses que la France est au-dessus, bon, je sais pas. Hein,
ben moi, je pense que le 11 de départ de la France est au-dessus. Après, je pense qu'on a 13-14 joueurs qui vont aller au bout si on n'a pas de blessés. Et ça sera comme ça jusqu'au bout. Je pense pas que Didier Deschamps va incorporer Veretout ou Guendouzi ou je dis eux et ou Fofana.
Mais après il reste 4 matchs avec la finale, donc bien sûr qu'il va pas les incorporer s'il n'a pas à les incorporer. Mais tu sais très bien comme moi que dans le football il y a des impondérables. Tu peux avoir un suspendu,
bien sûr, mais c'est pour ça que je dis.
Tu peux avoir un blessé, tu peux avoir ceci, et c'est là que tu vas devoir incorporer des joueurs qui ne sont ni Ederson le numéro 2 du Brésil, qui ne sont ni Fabinho le numéro 6 remplaçant du Brésil, qui ne sont ni Rodrigo ni Paqueta ni etc. Je vais pas tous te les faire.
Non, mais exactement. Mais moi, ce que j'essaye d'expliquer, c'est que pour le moment, on n'a rien vu. J'ai pas vu une seule équipe m'éblouir. Même si le Brésil, ils ont 22 joueurs fabuleux qui seraient titulaires dans n'importe quel club au monde, n'importe quel grand club au monde. Ouais. Pour le moment, le Brésil
pour le moment,
en a fait. J'ai pas vu. Voilà. J'ai par exemple, je disais, j'ai vu une vidéo avec. Le Brésil de 2002 avec Ronaldinho, Ronaldo, et je me suis dit, ah ouais, en fait, je comprends pourquoi le Brésil de 2022 ne m'impressionne pas. Parce que c'était ça le vrai football, c'était ça le vrai Brésil. Là, pour le moment, ce qu'on voit, excusez-moi, mais à part le but de Richarlison, qui est magnifique, mais dans le jeu, je vois pas des combinaisons, je vois pas ça pendant 90 minutes.
À mon avis, t'as pas vu jouer le Brésil, à mon avis.
Pendant 20 minutes. Oui, je les ai vus. Mais pendant 20 minutes, 30 minutes, ils ont fait ça. À partir du moment où ils ont marqué le premier but, ils se sont lâchés.
Nicolas, je pense que le Brésil finit par épuiser l'adversaire à force de coups de butoir. C'est ce qu'on a vu sur les deux premiers matchs. C'est pas forcément encore très spectaculaire, mais ça finit par épuiser. Merci, Nicolas. À très vite sur RMC. N'hésite pas à refaire le 32-16, les gars, dans un instant.
Juste pour
vas-y, Flo, très rapidement. Après, on resserre le débat sur les questions.
Sur le Brésil, ce qui est intéressant, et peut-être qu'on se trompe, hein, ils iront peut-être pas au bout parce que c'est rarement le favori qui gagne, mais comme tu l'as dit, y compris défensivement, c'est une équipe qui fait le travail de manière très très au niveau de l'impact, tu vois, très très fort. Donc.
Mais même l'Argentine que j'ai vue hier. Hein. C'est quand même pas mal du tout. Alors, c'est pas le Brésil, c'est pas la France, mais il va falloir les sortir
sur
quand même.
Certains postes, effectivement,
ils ont battu le Brésil en finale de la Copa América.
C'est vrai. Et c'est pour ça que je pense que les certitudes, notamment au milieu de terrain de certaines équipes, sont supérieures à celles du milieu de terrain de la France. Et n'oublions pas quand même, parce qu'on l'a presque oublié, parce qu'on a Mbappé, qu'on a ce fameux réservoir offensif, que l'absence de Benzema, qui est quand même le meilleur joueur de la saison.
Non, parce qu'il y a des supporters qui vont te répondre qu'on a gagné en 2018 sans Benzema.
C'est vrai, c'est vrai. Moi, je suis un fan de Giroud, tout le monde le sait, donc je suis ravi que Giroud puisse en servir.
C'est juste qu'en 2018, la moitié des joueurs de cette équipe avaient 4 ans et demi de moins. Donc déjà, ça change tout, avec ou sans Benzema.
C'est vrai.
Voilà.
Voilà, du coup, je me suis arrêté parce que je savais que déjà, on était en débord.
T'es en débord. Et peut-être que t'as oublié le fil de ta pensée aussi, peut-être.
Peut-être aussi, ouais. Mais bah, ça va revenir.
À tout à l'heure. Les gars, vous restez avec moi dans quelques secondes. On va resserrer le débat sur la défense centrale de l'équipe de France. Varane n'a pas été bon. Il faut le reconnaître contre la Tunisie. Y a-t-il un doute? Y a-t-il un débat? Varane ou Konaté avec Upamecano venant débattre au 32-16 avec nous dans l'after intégral Coupe du Monde RMC. Il est 1h21 à Doha. Il est plutôt chez vous, les gars. 2h de moins, 23h21. Reste avec nous, on revient dans quelques secondes, à tout de suite.